Bonjour, bienvenue dans la Terre à boire pour la suite de notre épisode exceptionnel en compagnie de Gabriel Lépouzé, neurobiologiste à l'Institut Pasteur, avec qui nous découvrons toutes les subtilités qui se passent dans nos têtes lorsque nous dégustons des vins. Nous avons commencé par un vin blanc sec, un muscadet du domaine Luneau-Papin, enchaîné avec un savagnin du domaine de la Pinte. On va continuer avec deux vins dans cette deuxième partie, en passant à l'exercice de la dégustation en verre noir. Et pour commencer, avant même de déguster des vins, on va se livrer un petit exercice. Gabriel, l'épousé, est en train, comme ça, dans le studio, de nous distribuer des petites languettes, un peu comme on en trouve en parfumerie. Gabriel, de quoi s'agit-il? Quel est cet exercice que tu nous proposes?
Alors, sur cette petite mouillette, j'ai glissé une petite molécule qui s'appelle la bêta-ionone.
Et cette molécule,
voilà, tu verras que c'est une molécule qui est charmante, que tu as peut-être déjà rencontrée avec d'autres comparses dans le vin en particulier. L'idée, c'est simple, c'est mettez cette petite mouillette devant votre nez, dites-moi si vous sentez quelque chose. Pas de question de je connais pas, dites-moi si oui ou non il y a une odeur sur cette mouillette.
Oui.
Est-ce qu'il y a des personnes qui sont
oui,
qui
sentent quelque chose? Il y a légère.
Légère ici, plutôt intense, plutôt moyenne, plutôt légère, plutôt absente. Sur une échelle de 1 à 4.
Si je suis très honnête, je ne sens... J'ai vraiment l'intention de rien sentir.
Alors, je te confirme que enrhumé, moi, je sens rien du tout non plus. Et c'est moi qui l'ai faite, cette odeur. Voilà. Et donc, je ne sens rien du tout. À ma droite,
Laurent,
tu sens quelque chose qui t'évoque quoi?
Une fleur.
Une fleur. T'es vraiment sur la bonne piste. Cette molécule, c'est une molécule... je dévoile le masque.
Florence.
Non, je suis comme toi, Romain.
Tu sens rien du tout.
Moi, je la sens un 5 sur 4, quoi.
Ok. Tu sens aussi quelque chose de floral, ou est-ce que tu veux compléter ce que dit Laurent?
J'étais entre le floral et...
Et la tranche de steak.
Un petit fruit rouge, mais j'étais plutôt floral.
Magnifique. Cette molécule, c'est bêta-ionone, on la retrouve dans l'odeur de violette.
Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Oui, tout à fait.
Alors, désolé. Oh, la violette, oui, bien sûr, la violette, enfin.
Je vais vous dire un truc. Moi, je suis hyper complexé sur ma capacité à reconnaître des odeurs, mais là, j'avais
violette. Ok, ça marche. Tu marques ce point, c'est bon.
Bon. Alors, il s'avère que cette molécule de bêta-ionone, qui n'existe pas naturellement toute seule comme ça, elle est là, elle est isolée de manière purement chimique, elle n'active qu'un seul de nos 400 récepteurs olfactifs. C'est assez rare pour être souligné, c'est un cas un peu exceptionnel. Sauf que dans la population humaine, il y a des gens qui ont des capteurs qui marchent bien, et puis d'autres personnes qui ont des capteurs qui marchent pas bien du tout. Et là, on a un bon exemple, on est presque à 50-50, il y a 3 personnes qui ne sentent rien du tout, et 2 personnes qui sentent, et qui arrivent même à identifier quelque chose qui est floral, voire même de la violette. Et donc, effectivement, si Laurent commence à prendre un vin qui contient cette odeur, ça, on en retrouve dans plusieurs vins, plutôt dans les vins rouges, dans les pinots noirs, dans les syrahs, si tu commences à me dire, vous sentez cette odeur de violette, t'as 2 cas de figure, soit t'acceptes de dire, non, je sens pas du tout. Soit tu dis, ah ben Laurent c'est un expert, il doit sentir un truc que je sens pas, oui certainement il y a de la violette. Et ça vous montre juste un exemple de ce qu'on retrouve beaucoup à l'échelle de l'olfaction, il y a beaucoup de variabilité, et entre une personne qui sent une odeur et la personne qui est à côté, peut y avoir des facteurs de concentration d'un ordre de 1000, c'est-à-dire qu'il faut 1000 fois concentrer l'odeur pour que moi je la sente comme toi, 1000 fois. Juste parce que je suis pas bien équipé, c'est la faute de papa et maman, je peux pas blâmer quelqu'un d'autre. Mais c'est le cas pour cette odeur, mais si j'aurais pu en sortir une autre et te montrer que sur cette odeur-là, tu sens rien du tout, et moi je sens quelque chose de très fort. Donc on a tous, si vous voulez, des lunettes déformantes qui nous permettent de voir des choses et pas d'autres. L'image qu'on prend dans ce domaine-là, c'est l'image des daltoniens dans le monde de la vision. Il y a des personnes qui sont malheureusement incapables de voir la couleur rouge. C'est 1-5% des garçons, beaucoup moins chez les filles. Et ces personnes ne voyaient pas le rouge du tout. Ils ne voyaient pas un feu rouge. Ils voyaient quelque chose de gris à la place du rouge. Ben là, c'est la même chose, sauf que là, c'est une odeur parmi plein d'autres. Et on n'a pas 3 capteurs pour voir les odeurs, on en a 400. Donc vous pouvez voir un peu l'embarras du problème. C'est qu'on est extrêmement différents sur ce qu'on perçoit.
Et alors moi, je vais être vraiment très mal fichu, parce que quand je sens, j'essaye de sentir fort du coup, parce que l'odeur est très légère. je me dis qu'il y a quelque chose, mais je sais pas quoi, je sais pas sentir. Et par contre, quand après j'ai arrêté de sentir la languette, j'ai l'impression qu'il me reste quand même un truc dans le nez. Mais
c'est quoi ce truc alors?
Je sais pas. J'aurais pas dit la violette. Alors, peut-être je suis pas
très sensible.
C'est agréable
ou c'est agréable?
C'est peut-être la mouillette, non?
Et ben, c'est pas très agréable.
Ok.
Ouais.
Là, je peux donner une mouillette contrôle pour voir si c'est la mouillette qui a une odeur de carton. Mais
non,
on
non,
senti,
je pense pas que ce soit ça. Le carton, j'aurais senti. Mais de toute façon, j'ai déjà goûté des choses à la violette, bonbons, machin. C'est un truc que j'aime pas du tout et je fais un petit peu un blocage là-dessus. C'est
rejet
pas
de
un...
la violette.
Ouais, non, moi, non, pas la violette.
Ah bah, les violettes.
Donc, la prise de risque, elle est la suivante. C'est quand je commence à décrire un vin du point de vue aromatique avec des descripteurs très précis qui parfois font référence à une ou quelques molécules, je prends le risque de m'exposer à des personnes qui ne sentent rien du tout de ce que j'ai senti. Et là, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce que j'essaie d'être précis au risque d'affronter l'altérité et l'individualité des autres, ou est-ce que je reste global et je parle à un maximum de personnes, mais finalement mon jugement n'est pas très précis et je décris le vin de manière un peu floue.
Sur cette histoire et cet exercice, une chose est mise en avant quand même, c'est que l'olfaction est le sens numéro un. Tu disais que nous, génétiquement, au niveau de l'espèce, la vue passe avant tous les autres, pour des questions de survie sans doute, voilà, qui nous précèdent de longtemps, mais qu'en matière de dégustation, c'est l'olfaction avant tout, c'est-à-dire que même le goût est fortement impacté par l'olfaction. Il y a des goûts ou des saveurs, des odeurs qui se révèlent uniquement en bouche et donc on sent par la rétro-nasale. Fais-nous juste le topo sur nasal, orthonasal, rétro-nasal. Notre nez, en fait, voilà, tu as parlé des 400 capteurs ou 300 capteurs, beaucoup plus que tous les autres sens. Voilà, comment ça s'organise tout ça?
Donc ces capteurs, ils sont situés en sommet de votre cavité nasale, à peu près au niveau entre vos deux yeux à ce niveau-là. Ici, il y a une petite surface de l'épithélium qui contient des cellules, des neurones qui portent ces récepteurs. Il y en a plusieurs millions, 5 à 10 millions. Ils sont sur une petite surface. Et pour atteindre cette surface, il y a deux chemins différents. Soit c'est un chemin qui vient par le nez. Quand tu sens une fleur, quand tu sens un parfum, par exemple, tu sens par ton nez et ces molécules vont monter dans ton nez et arriver potentiellement jusqu'à la cavité nasale au sommet. On estime que si tu sens un litre d'air, par exemple, avec ton nez, il y a à peu près 10% de ce volume-là qui est capable d'atteindre cette zone-là. Et puis, quand tu vas prendre un objet, cette fois-ci en bouche, tu vas pas manger une fleur ni boire ta bouteille de parfum, a priori, mais plutôt un autre objet. Cette fois-ci, quand tu vas mastiquer, mâcher, réchauffer ton aliment, dans le cas du vin, il se passe plein de choses. Donc, on le réchauffe, on le dilue avec la salive, tout ça dans une petite enceinte qui est toute petite. Il y a plein d'arômes qui sont libérés, qui sont concentrés. Et dès que tu vas avaler et créer un passage, justement, entre la bouche et le canal qui est à l'arrière de ta bouche, ces molécules aromatiques peuvent passer et vont rejoindre la cavité nasale une fois que tu expires et que tu ressouffles l'air qui était dans ta bouche par ton nez. C'est pour ça que quand on a le nez bouché, quand j'ai le nez bouché, le flux d'air de ma bouche vers mon nez n'est plus possible et donc je ne sens plus rien. J'ai une anosmie, je ne suis plus capable de sentir, c'est comme ça qu'on dit, et c'est extrêmement frustrant et c'est là qu'on découvre l'importance relative des odeurs dans la dégustation. On se rend compte qu'il manque quelque chose. Est-ce qu'on peut quantifier cette importance de l'odorat dans le vin? Est-ce qu'on peut dire l'odeur correspond à 10, 20, 30, 40, 50% de notre représentation de l'odeur? C'est impossible de dire ça. En fonction de l'objet que tu manges, que tu bois, la part de l'olfaction peut être extrêmement variable, et en fonction du contexte que tu fais. Donc on ne peut pas mettre un chiffre fondamental, mais on voit que c'est un élément quand même dominant, majeur, dans la représentation du goût du vin, qui inclut toutes les autres sensations qu'on va avoir en bouche.
Et a priori, si j'ai bien lu, la rétro-nasale génère... Enfin, on arrive à identifier plus d'odeurs par la rétro-nasale, et visiblement, les odeurs par la rétro-nasale sont plus limbiques. C'est-à-dire qu'on se souvient mieux des odeurs par la rétro-nasale que par l'auto-nasale. Ou alors j'ai mal lu?
Alors, c'est clair que quand on est en rétro-nasale, on a un contexte de libération qui est augmenté. Je réchauffe mon liquide, je l'étends sur une surface qui est beaucoup plus grande, je le mélange à la salive. Donc tout ça dans une petite enceinte qui fait que la concentration d'arômes par mètre cube est beaucoup plus forte. En plus de ça, ces arômes naissent en même temps que d'autres sensations que je vais pouvoir utiliser pour associer la naissance d'un arôme avec une sensation. Tiens, il y a quelque chose qui sent le citron et c'est acide en même temps. Et je vais pouvoir les associer plus facilement. Et en fait, pourquoi notre mémoire rétronasale est plus solide et fiable?
Parce qu'elle
est
plus, globale.
Parce qu'elle est plus associative, exactement. Parce qu'on te permet d'associer d'autres dimensions sensorielles en même temps, alors que c'est pas le cas sur une fleur. Sur une fleur, tu vas sentir une fleur, la regarder. C'est tout ce que tu peux faire. Tu peux associer le visuel avec l'odeur de la fleur. En bouche, tu multiplies les associations possibles.
Au risque de certaines tromperies, si je ne me trompe pas, là tu prends l'exemple de c'est acide et ça a goût de citron. Est-ce que le fait que ça soit acide peut nous faire déduire un goût de citron, ou inversement évidemment, alors même que ce n'est pas exactement ce qu'on sent? C'est difficile.
Tout à fait, on avait tout à fait tout à l'heure l'exemple de ce vin sur un millésime un peu solaire du domaine Lunopapin. On avait un nez qui exprimait des fruits mûrs, des fruits certainement donc associés à quelque chose de sucré, et en bouche un vin rigoureusement sec. Et il y a un effet de surprise là, entre ce que j'ai prédit du nez, qui m'a averti de quelque chose qui est potentiellement avec du sucre, et en fait une bouche qui n'en a pas du tout. Donc la séquence de présentation des éléments sensoriels au cerveau influence beaucoup comment je vais prédire le suivant. Et ça, on le voit vraiment bien aussi, c'est tout ce dont on parlait sur la couleur, comment la couleur va influencer le choix des descripteurs que je vais utiliser pour décrire mes arômes, qui va eux-mêmes influencer ce que je vais ressentir en bouche.
Alors, oui. Du coup, si je peux prendre cette image, on parle de film, de déroulé. Donc, les vins et les films les plus intéressants, c'est le vin où il y a plein de rebondissements, où il y a plein de surprises, et qu'on ne connaît pas le scénario écrit d'avance, quoi.
Alors, j'aimerais pouvoir te dire oui, mais on a eu l'explication par Laurent que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui aiment pouvoir être sûr de ce qui va se passer jusqu'au bout du film. Parce que je vais être capable de prédire et d'être sûr de ce qui se passe.
Oui, il y a des vins contemplatifs. Il n'y a pas nécessairement que des vins d'action. Non, mais blockbusters d'action. Il y a des vins asiatiques de contemplation pendant une heure et demie. On sait exactement où on va. C'est ça que je veux dire.
Et ça, Laurent, peut-être avec ses clients, pourra nous le dire. Est-ce que des clients sont prêts à accepter un vin surprenant? Un vin qui ne dit pas ce qu'il est et qui a une bouche qui propose quelque chose différent du nez, par exemple. Parfois, ça induit une perception désagréable de « je suis confus » et donc quand je suis confus, je rejette.
Je pense qu'effectivement, il y a tous les cas de figure. Hein. L'ouverture d'esprit, la curiosité, c'est pas le lot de tout le monde. Et c'est valable
encore
pour la dégustation.
Fois,
la
vin que tu bois, c'est ce que tu es.
Oui, on y arrive.
Tiens,
on y arrive,
j'ai envie du coup de te renvoyer cette question. Gabriel, toi, avec cet appareil critique, si j'ose dire, enfin, cette méthode scientifique sur la perception des goûts et des saveurs, est-ce que tu es encore capable de dire quels sont les vins que tu aimes? Est-ce que tu peux dire un vin que j'aime, c'est justement un vin qui me surprend? Ou c'est, tu vois, comment tu arrives à rester... j'allais dire vierge vis-à-vis de la dégustation et du plaisir que tu peux avoir à un vin, ou es-tu pas toujours rattrapé par cette approche scientifique qui t'amène quand même à mettre les choses un peu dans des cases?
Alors je vais parler de moi.
Mais
et
oui.
Donc dans les vins qui me plaisent, c'est qu'à la fois il y a une forme d'harmonie et de cohérence, c'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, le film raconte la même histoire, mais qu'en même temps, il y a une forme de vie dans la dynamique et dans la séquence du film qui fait que le vin développe des séquences différentes. Donc c'est une vraie dualité, finalement c'est complexe d'assembler ces deux éléments. Il faut qu'à la fois il soit cohérent, mais qu'il soit changeant en même temps. Pour moi, c'est ça, un des aspects qui définit un grand vin. C'est un vin qui est capable d'être vivant dans son développement, d'être vivant aussi dans toutes les strates qu'il propose. Et de voir que les strates se répondent les unes aux autres, qu'il y a un écho, qu'il y a un dialogue, qu'elles sont harmonieusement superposées, et justement qu'il n'y a pas trop de discordance. C'est ce que, malheureusement, parfois on juge comme un défaut, c'est que le défaut, c'est quand quelque chose est extrêmement, finalement, isolé par rapport à la représentation de tout le reste, et on a quelque chose qui devient deux, qui a une dualité, alors qu'on voudrait quelque chose qui soit qu'un. C'est pour moi une des définitions du défaut, c'est que quand le défaut, un objet qui un vin qui a un défaut, c'est quelqu'un qui propose un message qui est discordant avec le reste un petit peu. Mais la notion de discordance, elle est propre à chacun. Et ça, tout le monde le sait, en fonction des vins qu'on boit aujourd'hui, on peut peut-être avoir des surprises.
Pour aller dans ton sens, c'est pour ça que j'aime bien l'idée, dans notamment la géosensorielle, au bout du bout, il y a une forme du vin. C'est-à-dire que dans, on, il y a une représentation physique, enfin, on peut, si on va au bout de la logique, c'est de se dire j'ai une représentation, une forme du vin harmonieuse, alors après, parce qu'il y a une minéralité, etc. Enfin, alors c'est un peu barré hein, ce que je vais raconter, mais au bout du bout, un film a une forme équilibrée, etc. Et il y a des vins qui ont des formes différentes, et il y a des vins qui sont déséquilibrés, qui n'ont pas de belles formes, etc. Et donc après, après ça peut être une forme de moderne, hein, si on revient sur les tableaux, ça peut être une forme plus classique, mais voilà, enfin, je pense qu'au bout du bout de la logique.
Figuratif, ouais. Abstrait.
Ouais, tout à fait. Bon, je pense qu'au bout du bout, on peut dire qu'il y a une forme du vin, donc qu'il soit harmonieuse, bon, voilà, plus que, qu'autre chose. Le vin est servi, hein, donc si on
le
veut.
Le vin est servi dans nos verres.
Donc là, on fait une semi à l'aveugle, on va dire ça comme ça.
Oui, moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans les verres. Tu es le seul à savoir ce qu'on a dans nos verres noirs. Bon, voilà, première expérience. Verre noir, on ne voit pas la couleur du vin. Alors, si on se penche quand même, on le voit. Hein. Bon. Mm. C'est un peu. Il faudrait se bander les yeux. Je pense que le fait de se bander les yeux, c'est une méthode plus efficace. Que diriez-vous de ce vin qui est donc sélectionné par Patrice ?
Le nez envoie deux trois infos déjà. Quand même.
Mmh. Allez-y. Quelles sont les infos qu'envoie ce nez ? Ah, oh, les blancs.
Bon, c'est assez naturel au nez quand même, je veux dire.
Je veux dire un truc.
Oui, c'est un peu.
Un truc bizarre, j'ai une odeur de cidre, moi.
Un petit peu.
Ah, non,
effectivement.
On serait sûr du nature, oui, effectivement.
Bah, il y a de la pomme, il y en a.
Tu as rajouté de la pomme.
Elle en buvait au petit déjeuner. Mm. Gabriel.
La pomme, donc un jus qui est transparent, un jus plutôt blanc. Mm. Mais la bouche parle d'un autre son de cloche. C'est un vin qui a une vraie matière, une vraie forme de vin en l'occurrence, pour aller en ton sens. Et c'est typiquement un vin, j'ai envie de dire, que j'aime et que j'aime pas. Je vais commencer par pourquoi j'aime pas. C'est parce que je trouve que le nez est occupé par une chape qui le rend un peu illisible ou brouillon. Et du coup, bah, on comprend vite qu'il ne faut pas s'aborder pour ce projet-là, parce qu'il n'y a pas d'information à retenir autre que celle que tu viens de dire. Et c'est dans la bouche qui s'exprime. C'est vraiment un vin qui cherche à proposer un message, pas exclusivement gustatif, mais en tout cas dans le toucher de bouche, dans la forme de bouche, et pas forcément dans le nez. C'est typiquement, je pense que ce type de vin a du succès, parce que c'est des vins qui sont moins prises de tête du point de vue aromatique, du coup, mais qui sont associés à quoi ? Associés à une nourriture. C'est des vins qui sont prêts et disposés à chercher un autre accord de bouche, et pas forcément à chercher une analyse aromatique. Pour moi, je le ressens comme ça.
Je vais rebondir sur ce que tu dis sur le toucher de bouche.
C'est Jura Power, là, encore.
Florence a deviné. C'est Jura ?
Oui, c'est du Jura, oui. Mais effectivement, il y a un petit peu de gaz carbonique, un petit peu de volatile.
On est
un petit peu beaucoup, parce que là, il est beaucoup plus perlant que le muscadet. Ouais,
on est sur un vin nature.
C'est un vin nature.
Ouais. Nature donc,
on a effectivement une structure tannique qui n'est pas très, très marquée. Hein. On a un vin rouge. Trousseau,
Pulsar.
Ouais, alors maintenant que tu as parlé de Jura, effectivement, moi j'étais pas encore sur la région, mais voilà, ça ressemble à ça. Peut-être plutôt.
Alors du coup, il y a quelqu'un qui a la violette, parce que je sais pas si c'est un petit rototo de la petite pipette de tout à l'heure.
Si tu as mangé
coup,
la...
Oui, du coup j'ai la violette.
T'as
plus
que ça maintenant, t'as de la violette à fond.
La violette est partout. Donc vas-y, dis-nous, c'est un Pulsar, c'est un trousseau.
C'est un Pulsar, oui.
C'est un Pulsar du domaine.
C'est un Pulsar de Ganva.
Jean-François Ganva.
Du 2018, qui s'appelle Les Chanchons.
D'accord, donc c'est pas n'importe quel vigneron, quelqu'un d'assez.
Oui. Alors, donc il était élu meilleur vigneron de France par la FN en 2018.
Fanfan Ganva.
Fanfan, voilà. Et donc il travaille, il est en biodynamie depuis 2014. Donc ce qui m'intéressait, c'est de voir aussi s'il y a, entre guillemets, un goût de la biodynamie, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, c'est le Pulsar qui fait 1 hectare sur les 13 hectares de vignes. Que fait Ganva. Et là, on n'est pas sur les vins de négoce, parce qu'il fait aussi les vins de négoce, comme il y a beaucoup de gelée, il fait aussi une activité de négoce. Là, on est sur les vins en propre de Ganva, et donc sur son nectar. Et là, on est sur des marnes grises. On n'est pas sur les bleus, on est sur les grises, donc trias, lias.
On change de couleur de marne. Gabriel, deux questions. Tu as évoqué très vite la question du toucher de bouche. qu'est-ce qui se passe sur... Parce que la bouche et la langue, c'est l'organe du goût, mais aussi, on touche avec la langue. Et donc, il se passe quelque chose quand on parle de tanins. Alors là, c'est pas le cas avec ce vin, parce qu'on n'a pas des tanins râpeux, etc. Mais comment ça se passe, cette perception par le cerveau, des sensations envoyées par le toucher de la langue et même de la totalité de la bouche?
Donc, dans la bouche...
Et après, on parlera de cette question de la biodynamique, et effectivement, j'aimerais qu'on termine par ça.
Dans la bouche, c'est intéressant de savoir que c'est notre organe qui concentre le plus de capteurs tactiles par unité de surface.
De tout notre corps.
De tout notre corps. Si on regarde la surface cumulée en termes de nombre de capteurs, c'est là qu'on a la meilleure résolution en termes de toucher pour savoir ce qui se passe. On peut même donner des chiffres.
C'est là où il y a
des gens qui sont.
C'est là où il y a le plus de pixels pour voir le film.
Exactement, c'est une belle image. Et
on est en 18K là.
Un film qui a été proposé par exemple à des palais classiques, c'est de goûter des chocolats avec des diamètres de particules qui sont différents. On voit que les personnes sont capables de discriminer entre deux chocolats dont les particules sont juste différentes de 5 microns. C'est pour vous montrer un peu le niveau de résolution qu'on peut avoir. Le niveau de résolution qu'on peut avoir au niveau tactile. Qu'est-ce qu'on touche avec la bouche? On touche à la fois tout ce qui est pression, tout ce qui est vibration. Et c'est important, quand je dis vibration, de bien comprendre que quand je touche un objet, je touche mon pull, je touche la table qui est devant moi, qu'est-ce que je fais? Je fais un geste, je bouge, je suis dynamique. Le toucher, c'est vraiment un sens qui est dynamique. Il faut agir sur la matière pour sentir sa granulométrie, le grain des fibres de mon tissu, le grain du bois sur la table. Et c'est ce que vous faites avec la langue. Quand la langue touche son palais, elle analyse le grain de la matière qui est entre la langue et le palais, qui au départ est de la salive, qui est un gel visqueux, élastique, et qui d'un coup, par l'action du vin, va se transformer en quelque chose d'un peu différent en fonction de ce que le vin comporte. S'il y a des tanins, typiquement, les tanins vont interagir avec les protéines de la salive, vont faire des petits précipités qui peuvent avoir des tailles différentes, de 5 à 40 microns par exemple, et la langue est capable de lire la granulométrie finalement du grain de tanin associé avec les protéines. Ça veut dire une chose importante d'ailleurs, ça veut dire que la salive est pour nous le média pour lire la structure tannique d'un vin. Si on n'avait pas de salive, on ne pourrait pas lire les tanins d'un vin. Et cette granulométrie, elle se lie aussi en fonction aussi du pH. On sait que le pH va induire aussi certaines précipitations de protéines, va induire aussi, en fonction des acides qu'on va avoir, va induire des contractions musculaires, parce que l'acide, c'est quelque chose qui est dangereux pour notre muqueuse. Et en fonction du pH et du type d'acide, on va avoir des sensations tactiles en bouche qui vont être induites aussi par les acides. Ne pas tout le temps associer tactile et tanin, même si ça commence pareil, c'est le tactile vraiment a un sens beaucoup plus global, qui peut même être activé par des molécules qui vont donner l'illusion à un objet tactile. Je prends un exemple, on a trouvé dans certains poivres, comme le poivre du Sichuan, c'est un poivre qui contient une molécule qui, quand on le prend en bouche, donne l'impression d'avoir de la vibration, l'impression de quelque chose qui vibre en bouche, qui pétille, alors que vous avez juste pris un morceau de poivre, et il n'y a rien, il n'y a pas de gaz carbonique du tout, mais ça vibre comme quand on met quelque chose qui vibre dans la bouche. Il y a des molécules qui peuvent donner l'illusion du toucher. Et le vin est potentiellement serait peut-être équipé de faire ça. Il faut faire des recherches là-dessus. Et n'oublions pas aussi que en bouche, on sent aussi tout ce qui est chaud, tout ce qui est froid, la température du vin. Mais dans le vin, il y a des composés comme l'éthanol qui active le récepteur du chaud, par exemple, donc qui donne ces sensations de chaleur quand il y a trop d'éthanol.
Le menthol, le froid, par exemple.
Le menthol, le froid, ou l'eucalyptus pour d'autres vertus. Et puis, on a des capteurs qui sont aussi importants pour détecter tout ce qui est piquant, irritant. L'éthanol est un objet qui peut être irritant à forte concentration. L'acidité aussi, quand c'est trop fort, ça devient irritant. Le CO2 est quelque chose qui pique aussi. Si vous êtes amusé à mettre le nez au-dessus d'une flûte de champagne dès qu'on vient de la servir ou d'un pétillant, c'est volute de CO2 qui arrive à votre nez, ça pique le nez un peu comme la moutarde. Bah c'est en fait c'est la le même capteur qui détecte un objet irritant comme le CO2 et la moutarde. Donc vous voyez, le panel du toucher de bouche est assez global, et en plus se lie aussi à travers la salive qu'on va produire en réaction au vin. En fonction de la salive que je produis, je vais modifier mon toucher de bouche.
Et donc du coup, je reviens sur la notion de la molécule vibrante, on va dire, du siphon de Sichuan. Est-ce que dans les vins en biodynamie, du coup, est-ce que c'est des molécules vibrantes ou est-ce que c'est vraiment une vibration?
Je serais incapable de répondre à cette question, mais on a envie, quand on goûte certains vins, de se dire, mais il y a quelque chose là-dedans. On a envie de se plonger avec nos outils scientifiques ou œnologiques pour dire, mais qu'est-ce qui génère ce truc-là? Est-ce qu'il y a un lien avec un processus œnologique, un élément du terroir? ou bien non, on laisse la magie au vin et on accepte cette perception et on prend ça comme un élément qui nous parle et qui nous donne un message sur le vin.
Et du coup, est-ce qu'il y a alors biodynamie ou pas ? Parce qu'il ne faudrait pas mettre tous les vins biodynamie dans le même sac. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont pas terribles. Bon, bref, ça dépend de la qualité du vigneron souvent. Mais est-ce qu'il y a une spécificité des vins nature, par exemple, dans les dégustations ou pas ? Ou on peut soit dire ça comme ça ?
Oui, est-ce que c'est une grille de lecture, effectivement, toi, la dégustation, de dire ça, c'est un vin qui est plus nature, ça, c'est un vin qui est plus technique ou qui est plus chimique. C'est des choses qui... C'est une grille de lecture pertinente.
Je trouve ça dommage de mettre ces vins-là dans une catégorie et de les laisser coincés dans cette catégorie-là. Je préfère plutôt l'exercice qu'on vient de faire dans un verre noir complètement à l'aveugle. Si
mais là, en le goûtant, tu peux dire ça, c'est un vin nature.
Voilà, mais donc est-ce qu'un vin nature, c'est forcément.
Il a un peu les archétypes, on va dire, du vin nature.
Si tu dois expliquer à quelqu'un qu'un vin nature, c'est un vin qui a un nez de cidre, ça, c'est dommage. Donc, non, c'est pas du tout le message qu'on veut transmettre.
Étrange.
Et cette catégorisation qu'on propose des vins nature, je trouve qu'elle elle mérite beaucoup plus de pédagogie. Donc, je trouve que c'est à la fois bien de mettre un label pour être sûr de quoi on parle, et en même temps, c'est dangereux de vouloir mettre des vins dans des classes. Et de ne pas leur permettre de s'épanouir librement. Dégustons librement, soyons libres de tous les a priori. C'est quand même ce qu'on demande pour pouvoir apprécier le vin à sa juste valeur et pas à la valeur du label que j'ai vu sur l'étiquette.
Ok. Alors, juste pour clore ce sujet-là, tu n'es pas... est-ce que je dois dire, il y a un fantasme autour du fait que la biodynamie est quelque chose, est une pratique qui donnerait au vin une profondeur supplémentaire parce qu'on a travaillé la baie de raisin en amont beaucoup plus naturellement, à les renforcer, etc. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à considérer qu'à la dégustation, un vin élevé en biodynamie, on sent quand même il y a plus de quelque chose, il y a moins de quelque chose.
Mais là, tu vois, je vois que tu glisses entre...
Sans dire que c'est vrai ou c'est pas vrai, mais est-ce que... Vas-y.
Je vois que tu glisses entre biodynamie et nature.
Oui, tout à fait.
C'est
tout
des
à
choses
fait.
Qui sont peut-être dans ton cerveau le même objet. Mmh. Et dans d'autres personnes, c'est fondamentalement différent. Mmh. Si je reste sur le biodynamie, j'aurais essayé de répondre à ta dernière question. Pour moi, la pratique de biodynamie, elle a plein de vertus qui sont parfois très empiriques, qui vont à l'encontre de ce qu'on a appris du point de vue agricole, mais qui... Le vigneron voit que ça a un effet sur ses rendements et sur l'expression du vin qu'il a. Tous les ans, il fait une expérience et il voit que quand il fait cette pratique-là, empiriquement, il voit que ça marche bien. Il voit que sa terre se porte mieux. Il voit qu'il y a moins de gadou. Il voit que sa terre sent mieux. On a des vignerons qui... Je connais un vigneron, par exemple, qui est peut-être votre futur invité, Bruno Clavelier en Bourgogne, qui a fait l'expérience scientifique de prendre une parcelle, de la couper en 3 morceaux et de la laisser en conventionnel, en bio et en biodynamie pendant plusieurs années. Et à la fin de creuser 3 fosses, c'est de faire, bon, qu'est-ce qui se passe dans ces 3 fosses ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me permet de m'indiquer que le vin va être meilleur, que la faune va être meilleure ? Et lui, ce qu'il en retient, au-delà des analyses qui ont été faites pour lui par l'équipe des Bourguignons, il me dit une chose simple, il fait, moi je suis allé dans la fosse biodynamique, quand j'ai pris la terre et que je l'ai senti, ça sentait bon, et j'ai envie que mon vin, il pousse dans une terre qui sent bon. Voilà. Et donc ça, la biodynamie, peut-être qu'on ne comprend pas ce qui se passe complètement. Peut-être que les pratiques des tisanes, peut-être la pratique aussi d'ensemencement de microbes qu'on a fait évoluer dans une corne, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, mais à la lumière des connaissances maintenant qu'on a sur le microbiote des feuilles, on va comprendre en fait quel est le sens de cette pratique-là. On a au final une pratique qui cherche à diminuer aussi les rendements. Si on devait noircir le trait, et plus on diminue les rendements et plus on va faire la quintessence de l'objet que je peux extraire du sol, plus j'ai un message qui est lisible et lumineux. Et pour moi, c'est ça l'objectif ultime.
Bon, cette vision nous rejoint pas mal tout ce qu'on a pu dire, nous, sur la biodynamie. J'en profite pour dire qu'on est parfois interpellé sur le fait qu'on parle de biodynamie. On nous dit, mais vous vous rendez compte, ça recouvre plein d'ésotérisme. Bon, on va mettre tout ça de côté et redire ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse dans la biodynamie...
On fera une émission dessus.
On fera sans doute une émission sur la biodynamie, mais ce qui nous intéresse, c'est plus le fait qu'effectivement, un vigneron qui pratique la biodynamie... En tout cas, tous ceux qu'on a rencontrés, aucun ne nous sort des théories farfelues. Tous nous disent qu'ils veulent prendre soin de leurs plantes et que c'est d'abord une attention à la plante. Et nous, on en est arrivé à la conclusion que si on trouve qu'un vin en biodynamie est bon, c'est aussi parce que c'est en général un vigneron qui, justement, précisément, prend soin de ses plantes. Et comme par hasard, à la fin, ça fait des bons vins. Oui, Florence, si vous voulez ajouter quelque chose
oui,
sur ce sujet.
Oui, un livre à lire sur la biodynamie, sur une enquête sur la biodynamie. D'ailleurs, ça en plusieurs tomes. C'est Cosmo Bacchus. très très bon. C'est une BD en plus, ça se lit.
Tout à fait, c'est une BD.
Ça se lit vite, facilement, et c'est super intéressant. Ça, on se pose beaucoup de questions après l'avoir lu.
Ce serait intéressant d'interroger d'ailleurs son auteur. On en a parlé, et puis effectivement, il y a un auditeur qui m'a interpellé là-dessus et qui m'a conseillé également la lecture de Cosmo Bacchus, que je crois que tu as déjà...
Et puis un vigneron peut-être à inviter sur cette question-là, Patrick Baudouin, en Loire, mm-hmm. qui est un vigneron à qui on demande une fois par jour, à l'époque où il était faisait les salons, mais pourquoi vous n'êtes pas en biodynamie, et qui a écrit un super pamphlet, on va appeler ça comme ça, ou en tout cas un petit article, pour expliquer pourquoi il n'est pas dans cette démarche, et pourquoi il a choisi une démarche qui, pour lui, est parfois trop ésotérique, mais dont il partage certains principes, parce que, ultimement, c'est la vigne qui donne raison à ses pratiques.
Alors finissons avec ce dernier vin, c'est le vin de Florence. Alors il n'est pas en verre noir, il est en verre blanc, donc tu peux en admirer la sublime couleur. Et on va... voilà,
donc c'est un vin gris, hein, c'est ça ?
À ce dernier exercice de dégustation. Je ne sais pas si c'est un gris. C'est un blanc, a priori c'est un blanc. Et qu'est-ce qu'on peut en dire ? Richesse des arômes. Plus en bouche que au nez, en ce qui me concerne. Après, je suis un tout petit peu enrhumé, donc c'est peut-être lié, bizarrement. Ne me laissez pas tout seul avec ces silences-là.
Ouais, moi, j'attends que vous parliez.
Déjà, c'est déguste.
C'est pas un vin sec.
C'est
pas un vin liquoreux, c'est entre les deux.
C'est entre les deux.
C'est un demi-doux.
C'est un demi-doux.
Le nez augure d'une grande rondeur au goût, hein, puisqu'on a vraiment des fruits exotiques là, sur le nez.
La mangue, l'ananas.
Après, on a un petit côté, je sais pas, il y a un petit côté fenouil, je sais pas.
Il y a un côté végétal qui est agréable, presque mentholé un petit peu,
tout à fait.
En bouche.
Et une fois en bouche, on a cette rondeur là qui nous enveloppe, qui est pas du tout écœurante comme... souvent, malheureusement, le consommateur lambda s'imagine qu'un vin moelleux ou un vin doux va pouvoir être. On est vraiment sur quelque chose de rond, tout en étant en finesse.
Et en termes de toucher, on sent cette épaisseur du jus, ce côté plus visqueux, plus épais. On mesure ça avec ce fameux toucher de bouche.
Alors, ça plaît ou ça plaît pas ?
Moi ça me plaît et ça me plaît pas. Alors ça me plaît.
Vas-y, Patrice.
Non mais ça me plaît sur le côté hyper gourmand, aromatique. C'est un vrai vin de plaisir. Après je trouve, mais bon c'est comme ça. Je trouve que ça a pas beaucoup de longueur. Voilà, ça manque. C'est un voilà. Pardon. Pour les analogies, peut-être, c'est un super feuilleton qui manque peut-être un peu de rebondissement dans la durée. Par contre, c'est hyper gourmand. C'est un court métrage, mais qui est hyper, hyper agréable.
Mais qui laisse à la fin un message sur des amers, je trouve, un peu nobles, qui, à mon avis, c'est la force de ce vin-là, c'est que c'est pas un vin qui a une acidité qui est très forte, c'est pas des cépages acides comme serait un chenin, par exemple. On a cette rondeur et cette onctuosité. Cette largeur, ça occupe tout l'espace.
Et vous êtes sur quel cépage alors ?
Et moi, je termine, en tout cas, les notes végétales et un peu et l'amertume qu'il y a en fin de bouche. Moi, j'ai l'impression que j'ai eu, c'est quand j'ai respiré l'air à la fin de la dégustation, j'ai eu une sensation de fraîcheur presque mentholée quoi. Sur quel cépage on est ?
On est un monocépage.
On est dans le sud-ouest.
C'est facile. Ouais,
C'est pas évident parce qu'il n'y a pas une acidité très brillante et donc je serais plutôt sur un vin pas du nord. Je le fais par soustraction, pas septentrionale. Il y a une bonne maturité sans être trop lourd.
Qu'est-ce que c'est gourmand hein.
Ouais, on a l'impression de croquer dans un fruit exotique.
Ouais, un gâteau.
C'est pas des cépages du Jurançon. En tout cas, il n'y a pas cette acidité mordante un peu des Mansins. C'est pas évident.
Si tu trouves pas, on diffuse pas l'émission. Hein.
C'est dommage.
Allez, Florence.
Non, okay. Mais vas-y, arrête.
Tu nous sauves.
Alors, en fait, le hasard a fait que pour moi, ce vin, c'est l'opposé total du vin qu'a ramené Patrice. Parce que on est sur un cépage Sauvignon, donc oui, effectivement, dans le sud-ouest. Et c'est un vin qui, pour moi, est très technique. Donc, il est très bon, je l'aime beaucoup. J'en bois beaucoup à l'apéro quand on fait des barbecues. Ça passe super, c'est fruité. Je le propose énormément au vin au verre, au restaurant, parce que vu qu'il est sucré, mais pas trop sucré, on peut faire des choses intéressantes sur les desserts. Même si je remarque que je le fais sur les desserts du chef qui sont un peu simples sur les arômes. Et ma petite question, c'était la question un petit peu pour la fin. Pourquoi, quand je déguste ce vin, je coche les cases pêche, fleurs blanches, voilà. Et je prends du plaisir. Et pourquoi, quand on va déguster, par exemple, le savagnin du domaine de la Pinte, j'ai l'évocation des promenades au petit matin dans la campagne, l'odeur de la rosée sur les herbes, un truc beaucoup plus poétique. Ou quand c'est l'Uno Papin, ça me fait penser balade aux embruns de bord de mer. Pourquoi sur ces vins, c'est pour revenir sur le fameux discours sur la biodie, pourquoi sur ces vins un peu bio, biodie, j'ai un affect qui rentre dans la dégustation que j'ai pas sur ce vin qui va être conventionnel, que je trouve très bon. Hein,
là, quand tu dis il est technique, c'est un vin conventionnel qui est pas spécialement bio.
Ouais, alors c'est ils disent qu'ils font attention, machin et tout. C'est au niveau de la plantation du domaine, on a une trentaine d'hectares, donc finalement c'est comme la Pinte, hein, c'est pas, il y en a pas beaucoup plus ou beaucoup moins. Au niveau des cépages qu'ils ont plantés, bah déjà ça veut tout dire. Ils ont planté Chardonnay, Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Et juste un peu de Duras, qui est le seul cépage autochtone, vieux cépage classique. Ils sont labellisés HVE. Alors moi, en général, haute qualité, haute valeur environnementale. Quand un vin est labellisé HVE, pour moi, ça sent mauvais. Hein, parce que si tu voulais labelliser, tu labellisais bio, tu labellisais biodynamie.
C'est une sorte d'entre deux.
HVE, c'est parce que tu as fait un beau chèque bioclimatique. C'est pas ça qui va me dire que ta pratique dans la vigne est nature. Et bon, après, on n'a pas un rendement de fou, hein. On est sur 30 hecto-hectares là-dessus. On est sur un sol argilo-siliceux, mais c'est sur la façon dont c'est fait, les fermentations. Tu sens tout de suite que tu as de la fermentation à basse température pour pouvoir avoir le maximum d'extrait d'arômes. Tu as de la filtration, c'est pour ça qu'il est si clair, qu'il est comme ça. Il y a de l'élevage en cuvinox, c'est de la grosse cuvinox thermorégulée super moderne. C'est bon, mais y a pas la petite vibration. Disons que
on a oublié ta question du coup.
Ouais, je dirais que le rouge que t'avais,
j'allais,
Patrice,
j'allais reformuler, mais c'est bon.
le rouge que t'avais, Patrice, est peut-être un peu déroutant, mais il fait qu'on se pose plus de questions. Que là, je...
T'as l'impression qu'il est plus lisible. Est-ce
ouais,
que
là, c'est paf, 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 et comme tu dis, un peu court, du coup.
Est-ce que tu comprends cette
Tout à fait, je partage,
logique.
Je partage cette analyse. En fait, ce que tu décris, c'est que le vin ici, il propose un message, et pas plusieurs messages. T'as l'impression d'avoir un message qui est cohérent du début jusqu'à la fin, mais c'est complètement monotone. Y a pas de vie là-dedans, dans le sens où il n'y a pas de choses qui se renouvellent. Il a qu'un seul message à proposer. Et par contre, il est extrêmement lisible, il est séducteur dans sa largeur, dans son onctuosité, dans son sucre. Mais est-ce qu'il a suffisamment, justement, de vie pour appeler à boire un deuxième verre ? Je pense que c'est un vin dans lequel on se fatigue vite parce qu'il n'a qu'un seul message à proposer. Et dans le verre, il ne proposera pas autre chose, que ce soit au début ou au dessert. C'est quelque chose sur lequel il faut vite changer pour pouvoir avoir quelque chose de différent.
Bah, c'est sympa un verre à l'apéritif quand il fait bien chaud dans le jardin, ou c'est sympa un verre sur un dessert, et un dessert simple. Aussi, parce que un dessert de cuisinier, pas un dessert de pâtissier, comme on dit.
Subtilité de professionnel.
Si on a encore un peu de temps, on n'a pas parlé des accords de manière générale et comment justement les interactions font quoi. Alors, dans l'article, on reparlait de l'article fondateur, mais pas que, du rouge et le blanc, qu'il y avait des interactions avec des acides gras et des poissons gras qui font que certains rouges, mécaniquement, chimiquement, ne fonctionnent pas parce que ça crée des goûts, des acides aminés ou des goûts métalliques.
La fameuse histoire des goûts métalliques, en fait, c'est des vrais goûts métalliques, c'est des ions ferreux.
Oui, voilà. Mais du coup, c'est quoi le secret, mais c'est que dans ton travail, qu'est-ce qui permet de décortiquer ou de comprendre la dynamique des accords?
Alors, il faut voir qu'il y a, il y a plusieurs approches pour faire des accords. L'approche la plus intuitive, celle qui est défendue par, par plein d'écoles, c'est de faire des accords ton sur ton. Si tu retrouves dans ce vin quelque chose que tu vas retrouver dans ton plat, il y a une forme de continuité, finalement de lisibilité d'un
autre. Est-ce que c'est les accords terroirs ou c'est les accords, aromatiques?
Mais justement, il y a plein d'accords qui peuvent être faits. Si, un accord ton sur ton, ça marche, mais c'est souvent des accords qui sont faits du point de vue aromatique. Ah bah sur ce vin-là, bah, je ferais bien une petite pêche pochée, par exemple, un truc léger, une petite gousse de vanille juste pour agrémenter un petit peu plus. J'essaie de reproduire ce qu'il y a dans le vin pour prolonger l'exercice. Et quand je passe du mets au vin, la transition soit souple et confortable. Ça, ça marche, mais c'est vite épuisant. Et puis surtout, on sature vite. C'est-à-dire que le cerveau a tendance, quand il a un vin un peu monotone ou un objet monotone qui est continu, il a tendance à faire disparaître les choses qui sont monotones. Vous rentrez dans une pièce, ça sent une odeur, si cette odeur est constante et tout le temps la même, au bout de quelques minutes, vous la sentirez plus. Donc un vin qui propose un message monotone, c'est un vin qui va s'effacer, qui va disparaître. Alors qu'un vin qui est capable de proposer des messages qui changent, le cerveau est très attentif à ce qui change justement, au contraste. Donc les accords de contraste, justement, deviennent intéressants, parce qu'ils proposent quelque chose, mais il faut quand même que ce soit harmonieux. C'est vrai que si je sers un vin blanc sur une pièce de viande, ouais, il y a un bon contraste, mais c'est pas bien construit. Pourquoi ? Parce que là, pour parler de la pièce de viande, la pièce de viande, elle a besoin d'être accompagnée aussi en bouche parce qu'elle a une présence pas seulement aromatique, mais aussi beaucoup gustative. Il y a dans une pièce de viande un plat bien gras, là, hein, c'est l'hiver, c'est l'époque des plats bien gras, d'un bon cassoulet. Moi, je suis originaire du sud-ouest, voilà un plat bien roboratif. Qu'est-ce que je cherche sur un cassoulet ? Je vais pas servir un sauvignon, combien soit-il du sud-ouest, ça n'a aucun intérêt parce que dans un plat qui est bien roboratif où il y a beaucoup de gras, il faut quelque chose qui puisse détruire un peu cette pellicule de gras qui est très saturante en bouche. Et donc je vais chercher un vin qui est tannique. Un vin qui est tannique, dans la région il y en a plein, mais c'est pas pour une mauvaise raison qu'il y a des vins tanniques qu'on a choisis, un bon tannat du Madiran, un Malbec de Cahors ou que sais-je de la région du sud-ouest. Il faut du tannin pour pouvoir briser cette pellicule de gras qui est saturante. Là c'est un accord de bouche par contraste. Tu peux imaginer des accords d'homologie dans la bouche qui sont ton sur ton, mais uniquement sur les saveurs. Qu'est-ce que tu sers sur un risotto, par exemple ? Sur un risotto aux champignons. Risotto à la truffe, si tu veux partir encore plus dans une métaphore italienne. Le risotto, c'est un plat qui est riche en bouillon, sur lequel on rajoute du parmesan. Donc là, tu fais un tilt, ça c'est quelque chose qui est très umami. Il faut que je trouve un vin umami. Donc il faut que je trouve un vin qui va accompagner cette saveur pour la prolonger en bouche, mais qui peut proposer quelque chose de différent au niveau de l'aromatique. Tu vois, la strate de lecture est différente. Et c'est là que tu peux t'amuser. Mais l'écueil sur ce plat-là, c'est de vouloir faire un accord ton sur ton sur la truffe. L'écueil, c'est de dire, j'ai un risotto à la truffe, je vais trouver un vin à la truffe. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas trouver un vin qui a un arôme de truffe qui soit aussi puissant que la belle truffe que tu as mis dans ton gâteau, dans ton risotto? Non, ça sera un échec. Donc... Tu vois, il faut penser toutes les strates du vin, parce que le vin n'est pas seulement aromatique, et on a tendance à faire un coup de projecteur là-dessus, mais non, il y a d'autres éléments qui lisent, et parfois, ça peut être ton sur ton, parfois c'est en contraste, et c'est là, à mon avis, toute l'expertise d'une sommelière, qui a travaillé dans un restaurant avec un chef, et qui a testé des vins qu'elle a dans l'idée, pour trouver le meilleur accord.
Merci Gabriel. L'épouser, en fait, c'est une conversation qui pourrait continuer des heures. Hein. Je sens que Patrice était encore prêt à poser une question.
Je crois qu'il va falloir qu'on sorte du studio, donc on va s'arrêter.
Il va falloir qu'on s'arrête. On a déjà fait deux épisodes autour de cette question du vin et de la façon dont notre cerveau le perçoit, le décortique, l'analyse, le ressent. J'adore ce sujet autour des vins flat et des vins qui vibrent. J'ai l'impression que ça rejoint beaucoup de choses qu'on a pu dire sur pourquoi les vins bio nous évoque pas mal de choses, même si toute technique qu'il est, moi je le trouve très bon. Sauvignon,
c'est rare de ma part.
Tu n'as pas noté, oui, tout à fait. D'habitude, tu nous apportes plus des vins bio. Tu n'as pas donné le nom du domaine.
On dit, même si on n'a pas été très sympa.
Ah bah, on a quand même dit qu'il était très bon.
Domaine d'Anségur, Sauvignon d'Or.
Entendu, c'est noté. Merci infiniment, Gabriel Épousé. Tiens, question, il faut répondre en 20 secondes. Qu'est-ce qui reste encore à découvrir sur le vin dans ton domaine ? Est-ce que tu étudies des choses particulièrement sur la perception par notre cerveau de l'univers du vin ?
Il y a plein de sujets, mais il y a un sujet, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les interactions des sens les uns avec les autres. Comment une odeur influence les saveurs, comment le toucher va influencer la perception d'une odeur. Et comment, finalement, l'objet dans lequel on goûte va déterminer ce que tu vas sentir. On fait des travaux, justement, à la fois fondamentaux, mais aussi appliqués, sur comment redéfinir l'objet de la dégustation, le verre.
On boit du vin dans un bol, on va pas lui trouver le même goût.
Exactement. Et on buvait à cette époque dans une petite tasse, un petit tasse-vin, qui est un objet qui est fantastique, parce que c'est un objet qui renverse l'ordre de séquence des objets qu'on analyse. Dans une petite tasse, tu goûtes d'abord, tu sens après, et tu regardes à la fin. L'inverse de ce que tu fais dans un verre comme ça. Et si tu regardes les commentateurs de vin, les commentaires qu'ils portaient dans les années 70 et les commentaires qu'ils portaient dans les années 2020, c'est pas du tout les mêmes, parce que l'objet a changé. L'objet crée l'intention, l'objet crée le produit aussi.
Le vin serait-il un objet culturel ?
Certainement, plus que ça.
Comme on s'évertue à le démontrer, civilisationnel, tu as raison, dans cette émission. Merci à tous, merci Florence, Laurent et Patrice.
Merci.
À bientôt.
On se retrouve dans une paire de semaines pour continuer à parler de vin, évidemment, sous toutes ses coutures. Et je renvoie ceux qui voudraient se documenter sur ce thème du jour à l'excellent article que donc, tu as commis avec Le Rouge et le Blanc. En fait, tu as fait une conférence là-bas de 3 heures. Ils en ont fait un papier de 10 pages absolument passionnant. C'est dans le numéro 139 du Rouge et le Blanc, cette revue que nous adorons et qui a pour couverture, je crois, justement, le Jura, qui était un des thèmes du jour. Merci à vous d'écouter La Terre à Boire. Suivez-nous sur les réseaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Bye bye.